jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invitée est l'une des plus grandes actrices françaises. Elle a tourné avec Claude Chabrol, Michael Haneke, Maurice Pialat, Claude Sauté, Diane Curis, Paul Verhoeven ou encore Hong Sang-soo. Elle a joué les plus grands personnages du répertoire, à l'écran ou sur scène, Emma Bovary, Médée, Hedda Gabler, Orlando et il y a quelques jours encore, Bérénice. Je ne vais évidemment pas citer tous ses rôles, tant elle a joué depuis ses débuts en 1972 et aussi, je l'avoue, pour l'entendre quand même un peu parler. Demain, en salle, on pourra la découvrir sous les traits non pas d'une héroïne du patrimoine littéraire, mais sous les traits de Sidonie Perceval, écrivaine en deuil, qui n'arrive plus à écrire et part au Japon. Une héroïne a priori ordinaire qui va pourtant vivre l'extraordinaire.
Bonjour Isabelle Huppert.
Bonjour.
Bienvenue dans les Midis de Culture.
Alors, Sidonie au Japon, c'est le titre de ce troisième long métrage d'Élise Girard. Isabelle Huppert, vous y interprétez Sidonie. Qui est Sidonie Perceval? D'ailleurs, j'ai découvert qu'elle s'appelait Sidonie Perceval en lisant le synopsis, pas en regardant le film, et je trouve que c'est un nom, en fait, d'héroïne en tant que telle.
Vous avez raison, vous me le rappelez qu'elle s'appelle Sidonie Perceval.
C'est génial. J'avais
même oublié. Déjà, Sidonie au Japon, ça éveille tout un imaginaire un peu de conte, un peu de fantastique, mais surtout de conte, de oui. Quelque chose d'un peu enfantin, presque comme une bande dessinée. Mais alors, Sidonie Perceval, alors là, ça nous emmène
du côté du Moyen-Âge.
Plus loin. Exactement. Et c'est vrai qu'elle est un peu intemporelle, cette Sidonie. Donc, c'est très bien vu de la part d'Élise Girard. Elle est un peu intemporelle parce qu'elle est pas, on sent que elle est dans un monde tellement, peut-être, je vais pas dire non, j'allais dire autiste, c'est pas le mot qui convient, mais il y a quelque chose qui s'est arrêté en elle, il y a un lien avec le monde qui s'est suspendu. Oui, voilà, elle est en suspension au fond depuis toutes ces épreuves qu'elle a traversées. Elle a arrêté l'écriture, elle a arrêté de vivre d'une certaine manière. Et puis ce voyage au Japon, voilà, c'est un peu l'histoire d'une renaissance. La confrontation avec un monde tellement différent, elle part très loin pour se retrouver. Mais elle l'ignore et ça lui fait peur. D'ailleurs, elle aimerait bien rater son avion.
Oui, c'est vrai, c'est la première scène. Oui. Donc pour la décrire, Sidonie Perceval, vous diriez, Isabelle Huppert, que c'est une héroïne de conte en deuil qui va revivre.
Peut-être que les héroïnes de cinéma sont toujours des héroïnes de conte, ou finalement, à la fois bien, bien réelles, mais bien imaginaires aussi. C'est pour ça qu'on les aime peut-être, et qu'on voyage avec elles, je sais pas. C'est pas du documentaire, le cinéma, c'est quand même de la fiction, et c'est le triomphe de la fiction dans ce qui peut avoir de plus puissant, de plus réel, et dans lequel on peut se reconnaître le plus. Mais c'est vrai que Élise Girard, dans ce film, elle plante un décor très fort, très puissant, un peu comme au théâtre. On plante un décor qui est abstrait au théâtre. Alors, je ne dis pas que le Japon est abstrait, mais j'ai l'impression que dans le film, quand même, il est tellement en résonance avec sa pérégrination émotionnelle, mentale, disons, que finalement, il apparaît presque comme un écrin, comme pas réel, avec aussi des raisons objectives qui étaient un peu triviales mais réelles, qui étaient que on tournait en fait pendant le Covid, enfin le Covid n'était pas encore complètement terminé, pour ne pas dire pas du tout terminé, mais on a quand même eu l'autorisation de tourner. On devait tourner même un an avant, et puis le tournage a été interrompu. Là, on pouvait carrément pas rentrer au Japon. Et puis finalement, on a pu partir. Mais c'était quand même un Japon particulier. Il y avait pas du tout de touristes.
C'est vrai que c'est un Japon très calme, presque très calme. Désert, qu'on voit dans le film.
Alors, ceci étant, c'est pas pour minorer ce que je dis, mais c'est vrai que le Japon, de toute façon, est toujours plus calme que des villes qu'on connaît plus ici. C'est assez curieux d'ailleurs. Mais enfin, là, il l'était d'autant plus. Donc, il était propice aussi à faire écho à cette espèce de ouate psychique dans laquelle elle se trouve quand elle arrive là-bas. Et je trouve que c'est très, très bien restitué dans le film, cette espèce de oui, il y a une consistance qu'elle donne notamment à toutes les scènes dans la voiture justement où Et la manière dont Élise fait résonner les silences, tout en créant de tension, c'est toujours ça la difficulté quand on invite le silence au cinéma et au théâtre, c'est comment garder la tension. Ça, c'est tout l'art de la chose, et je trouve qu'elle y réussit très bien.
On va tout de suite écouter la bande-annonce pour que les auditeurs et auditrices aient une petite idée de ce film. Mais il n'y a pas de silence, évidemment, dans une bande-annonce.
What's your reason for your trip?
They are republishing my first book.
Are you a writer?
Yes and no. Tu travailles avec mon éditeur?
Je suis votre éditeur.
Oh! No one can open the windows. That's normal for safety reasons.
Safety?
C'est presque irréel pour moi d'être ici. Vous aurez des belles mains.
I'm telling you, the window is open.
That's impossible.
Qui êtes-vous?
Au Japon, ils vivent partout autour de nous.
Antoine, mais c'est vraiment toi.
Sidonie.
Vous croyez aux fantômes? Pourquoi tu es revenu?
Je ne suis pas revenu. Je ne suis jamais parti, Sidonie.
L'écriture, c'est ce qui reste quand on se retrouve sans rien. Je sais pas ce qui m'arrive.
Ne pleurez pas, c'est comme ça.
Je suis heureuse de vous connaître.
Moi aussi.
Alors, sourire.
Voilà pour la bande-annonce de Sidonie au Japon. C'est demain en salle avec vous, Isabelle Huppert, qui a interprété Sidonie. Et c'est le troisième film d'Élise Girard. Vous l'avez dit tout à l'heure, Isabelle Huppert, Sidonie, c'est une héroïne qui est en suspension, qui est coupée du monde. Et tout ce qu'elle fait, c'est assez intéressant, on le voit dès la première scène, c'est comme si elle le faisait malgré elle. C'est-à-dire que vraiment, son corps agit, elle fait ses valises pour aller au Japon, elle va à l'aéroport. Elle entre dans l'avion, mais enfin presque contre son gré, mais son esprit résiste. Il y a cette dissociation en elle entre son corps qui agit et son esprit qui est complètement ailleurs, au point d'ailleurs qu'au Japon, il va être tellement ailleurs qu'elle va faire la rencontre d'un fantôme. Et elle, c'est ce qui va lui permettre de faire le deuil de son mari. Comment on fait pour articuler une sorte de vivacité du corps comme ça, mais une sorte d'absence totale de l'esprit à l'écran?
Oui, en même temps, vous écoutez, je me disais que dès qu'elle arrive au Japon, quand même, il y a quelque chose de réactif chez elle, parce que la première scène drôle du film, et il y en a beaucoup, oui, c'est quand cet éditeur qu'elle rencontre, elle s'étonne déjà que ce soit son éditeur. Elle s'attendait, comme elle lui dit, à quelqu'un de beaucoup plus vieux ou de complètement différent. Mais il y a tout de suite un micro-événement qui déclenche sur chez elle, oui, une réactivité. Il lui prend son sac assez brutalement et il y a tout un jeu qui s'instaure autour de ce sac. Et c'est comme si, dès qu'elle arrive au Japon, finalement, il y a une vitalité.
Il y a un réveil presque.
Il y a un réveil à travers cette série de micro-événements qui la confrontent à un monde qui la surprend, auquel elle ne s'entendait pas du tout. Et ça, c'est aussi très bien traduit, enfin rendu par Élie Girard de manière à la fois très malicieuse, très fine, qui raconte aussi quelque chose sur cette personne qui s'éveille à nouveau. Mais vous avez tout à fait raison de dire aussi qu'il est en même temps dans une sorte d'absence aussi. On assiste à une espèce de double mouvement, à la fois d'absence et de quand même de capacité à réagir, à s'émerveiller aussi.
Mais elle est presque mécanique au début. Il y a quelque chose de burlesque quand elle avance, quand elle est en retard, quand elle accélère.
Absolument. Il y a, disons, un dispositif aussi qui est mis en place, enfin, qui n'a pas été vraiment prévu. Élise Girard n'avait pas prévu de choisir un comédien qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que moi et qui marchait très vite, et tout de suite ça a instauré une sorte de relation entre nous assez drôle, assez burlesque, lui qui marche à grande enjambée et elle qui lui court après, avec tout ce que ça peut laisser supposer de à la fois de légère grossièreté, d'autorité, puis en même temps peut-être de peur aussi à la rencontrer. Enfin, il y a tout quelque chose qui se met en place entre ces deux personnes et un langage du corps entre les deux.
Vous avez déjà interprété, Isabelle Huppert, un rôle de femme en deuil?
Je crois, mais je ne me souviens plus duquel. Mais je suis presque sûre. Oui, mais...
Si vous ne vous souvenez pas, on ne vous en voudra pas.
Oui, il ne faudra pas m'en vouloir. en deuil d'un amour, oui, je pense spontanément à l'avenir, mais...
Demi Hansen Love.
N'est pas du tout Demi Hansen Love, alors qu'il n'est pas mort du tout, mais enfin, il est mort d'une certaine manière parce qu'il la quitte.
Et il y a sa mère aussi dans l'avenir, si je me souviens bien.
Il y a sa mère aussi, mais elle
qui est mise en EHPAD.
Oui, c'est ça, mais enfin, elle n'est pas encore morte. Comme
non.
Donc, mais ça a dû m'arriver. Sincèrement, je m'en...
Parce que là, c'est un film presque d'anti-deuil, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas du tout dans les clichés du pathos. Voilà, il y a une dimension burlesque avec ce corps un peu mécanique à certains moments. C'est un conte aussi, vous l'avez dit, avec l'émerveillement. Il y a cet éditeur avec lequel elle va nouer une relation inattendue, alors qu'ils sont très taiseux au départ l'un et l'autre. C'est pas du tout un film de... Voilà, si on pouvait dire que c'était un film, je le présente comme c'est Sidonie qui va au Japon et c'est un film sur une écrivaine en deuil, ce serait faux en fait, presque.
Oui, parce que même les scènes avec le fantôme, elles sont à la fois drôles et tragiques aussi. Élie Girard a fait le choix à travers aussi avec l'aide de Auguste Dill qui joue le fantôme, de montrer un fantôme particulièrement peu morbide, très vivant, mais d'autant plus dérangeant qu'il est vivant, justement. Et c'est... Donc elle crée toujours quand même un double mouvement. C'est à la fois drôle et tragique. On souffre pour elle que ce fantôme soit si vivant, au fond. Parce qu'on se dit...
Ah, moi, ça m'a rassurée.
Oui, enfin, plus il est vivant et plus on comprend qu'elle a du mal à s'en débarrasser. Mmh. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a une sorte de mouvement paradoxal. C'est elle est très gaie quand il est là, alors qu'au fond, c'est très triste, puisque plus il est là, moins elle peut vivre. Mmh. Et puis finalement, il finit par... D'ailleurs, de lui-même, il lui dit « il faut que je te laisse ». Et là, elle en est bouleversée. Mais au fond, là, on est plutôt heureux de ce bouleversement, parce que ça veut dire quand même que c'est la vie qui revient. Et ça, c'est très intelligemment, je trouve... tricoté.
Et c'est vrai qu'il y a un côté, il y a un côté fantastique avec cette apparition du fantôme, parce que vous avez tourné seul, en fait.
Alors, quand il est vraiment là, quand il est vivant, non, Auguste était là. Et puis, un peu plus tard, quand il n'est pas là, il n'est pas là. Et là, quand il prend une forme plus immatérielle, il n'était pas là. Mais c'est vrai qu'il y a un côté fantastique, parce que même les chaussures s'illuminent dans le film.
Ah, j'ai pas remarqué ça, ça m'a échappé.
Eh bien, si,
ah, les baskets qu'elle a. Oui, c'est vrai. Et elle n'arrive pas d'ailleurs à désactiver les lumières. C'est vrai que ça rend... Mais alors ça, c'est plus du côté burlesque.
Oui, mais il y a du surnaturel. Les chaussures s'allument. Les tennis s'allument. Ils deviennent tout rouges tout d'un coup.
Élise Girard dit qu'elle a voulu faire ce film comme on fait une expérimentation. C'est-à-dire prendre le personnage de Sidonie. Elle est dans sa bulle à Paris, elle n'arrive pas à faire le deuil. Donc, expérimentation, on la déplace, on la change d'environnement et on voit ce qui se passe. C'est ça qu'elle vous a dit quand elle vous dit tu vas interpréter Sidonie. On te prend, on te déplace au Japon et on voit ce que ça donne sur ton visage, dans tes mouvements, dans tes pensées.
Oui, c'est comme un précipité chimique. Le cinéma, c'est souvent ça. On prend quelqu'un, un individu, et puis on le met dans un décor particulier. Mais là, évidemment, elle pousse l'expérience, parce que c'est une expérience très, très loin, au sens premier du mot. Elle m'emmène très, très loin. Et c'est justement dans cette distance, dans cet inconnu, qu'il y a tout d'un coup une... Il y a un choc aussi. C'est le choc des cultures, et ça, elle le montre aussi d'une manière très gracieuse. Mais il y a un choc. C'est que ça... Il y a une modification. C'est pas tellement qu'elle change, c'est qu'elle se modifie.
Et... Qu'est-ce que vous faites comme différence entre changement et se modifier ?
Ben, je pense que la modification, c'est plus subtil que le changement. Enfin, spontanément, j'ai envie de le définir comme ça. Je sais pas si c'est vrai. Mais j'ai l'impression que la modification, c'est une partie de soi-même ou c'est un pas de côté qu'on fait. Mais le changement, je trouve que c'est moins intéressant, d'ailleurs, le changement.
Ah oui ?
Il me semble, oui.
C'est trop radical ?
Oui, enfin, si je me l'appliquais à moi-même, je me dirais que moi, au fur et à mesure, je me suis modifiée, mais je n'ai jamais vraiment changé. Donc, mais chacun est libre de se définir comme il l'entend.
Et vous parlez là de vous ou de votre manière de jouer ?
Les deux, ça va ensemble. Parce que quand je joue, c'est moi, de toute façon. C'est aussi moi. Et un peu surtout moi, parfois. Un peu surtout, je pense que c'est une bonne manière de le dire.
Modification, ça veut dire s'adapter, puisque Géraldine parlait de vous retirer de votre vie du quotidien pour justement aller dans ce pays qui est le Japon. Donc en fait, c'est une forme d'influence de l'endroit sur vous, sur le personnage et sur la personne même que vous êtes.
Oui, par une série de rencontres, par une série de situations, un choc esthétique aussi, mais on échappe néanmoins quand même à la promenade touristique. Mais c'est regarder le monde. Peut-être qu'elle ne regardait plus le monde. On la voit partir d'un appartement parisien où on imagine qu'elle vivait enfermée avec des vestiges du passé. On saisit quelques clichés, quelques photos. Donc, ça suffit à nous suggérer qu'elle vivait dans un univers très fermé. Et puis, tout d'un coup, le monde s'impose et avec, non pas ni avec violence ni avec brutalité, mais avec émerveillement. La nature, tout est source d'émerveillement. Qu'elle soit dans une ville ou qu'elle rencontre les biches à Nara ou sur l'île de Naoshima et qu'elle rencontre toutes ces œuvres d'art contemporain qui sont disséminées autour d'elle, le monde s'impose à elle, tout d'un coup.
L'autre deuil que vit aussi Sidonie, c'est qu'elle n'arrive plus à écrire. Depuis qu'elle a perdu son mari, elle n'arrive plus à écrire. Donc vous avez véritablement interprété Isabelle Huppert, quelqu'un qui effectivement est en suspension mais ne fait plus rien et qu'on voit sans cesse échouer. On la voit plusieurs fois prendre un stylo. Elle n'y arrive pas. Je ne dévoile pas la suite du film parce qu'il y a plusieurs tentatives. Voilà, c'est quand même un rôle qui est en perpétuel échec ou alors en perpétuelle recherche.
Alors, dans le fait qu'elle n'arrive plus à écrire, on mesure à quel point elle est emprisonnée en elle-même. Alors, je ne dis pas que tout le monde n'a pas la possibilité forcément d'écrire ou de métaphoriser ses sensations, mais elle n'arrive plus à rien faire. Et l'écriture, pour elle, on imagine que c'était quand même le centre de sa vie. Mais même ça, elle n'arrive plus à le... Et on peut quand même révéler que peu à peu, elle va réussir...
Elle crée un mot.
Elle crée un mot l'un après l'autre.
Ouais.
Et c'est vrai que la manière dont Élie Girard le montre dans le film... Enfin, on ne va pas tout dévoiler, donc il faut aller voir le film.
Finalement, c'est vrai qu'on en dit beaucoup.
Vous alliez le faire et puis vous êtes arrêté. Ouais.
Non, parce que c'est très beau, la manière dont elle...
Oui, ça, mais en fait, c'est aussi un film... C'est pas...
Il y a une littéralité, justement, du réapprentissage de l'écriture.
Vous avez parlé de modification du personnage qui ne change pas, mais se modifie. Vous parlez de Sidonie comme si vous la connaissiez parfaitement, en fait. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'elle vous ressemblait ou que vous lui ressembliez? D'ailleurs, je ne sais pas dans quel sens ça peut se faire. Avec aussi cette peur d'arrêter, de tout à coup ne plus pouvoir agir, avancer, et pour vous, dans votre cas, peut-être même jouer.
Alors moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais ce que vous disiez m'évoquait autre chose, le fait que je crois que quand on joue un rôle, quand on fait un film, on a forcément l'impression de connaître extrêmement bien la personne qu'on interprète, donc pas tellement plus elle qu'une autre. Bon, ça c'était une légère digression que je faisais, mais par rapport à ce personnage-là en particulier, non, je peux pas dire que, bien que la connaissant très bien, la comprenant très bien, j'ai été confrontée au même genre d'obstacles, de possibles obstacles, non. Mais
c'est pas nécessaire de les avoir connus pour interpréter ce genre de rôle. L'intimité avec un personnage, c'est pas forcément se dire qu'on la connaît parce qu'on a vécu la même chose qu'elle.
Bah, dans ce film, il y a quand même une universalité du propos qui fait que pratiquement, enfin, tout le monde peut s'y reconnaître, le deuil, la confrontation avec la mort.
L'impossibilité d'avancer.
On l'a forcément connu. Donc, alors elle le connaît dans des proportions tout à fait particulières, particulièrement dramatiques. Non, mais quand on joue un personnage, on n'a pas besoin, effectivement, d'en avoir connu le parcours d'une manière anecdotique. Mais on peut se reconnaître dans la manière dont elle s'y confronte, sans forcément avoir vécu la même chose.
Et qu'est-ce qui fait qu'après, on sait qu'on l'interprète bien ?
Je ne suis pas sûre qu'on sait qu'on interprète bien, on peut savoir...
Ou qu'on se met bien dans sa peau.
Qu'on interprète juste.
Oui. Bon,
peut-être que juste, c'est quand même bien. Bien, je ne sais pas, parce que... Bien, c'est un peu ce qu'il y a ça...
Ça fait bonne ça école.
Non, mais ça consistera à dire que ça plaît à tout le monde ou qu'il faut, il y a pas d'objectivité. Il y a que c'est très subjectif. Il y a des gens qui ça peut plaire et d'autres à ne pas plaire.
Alors je reformule. Qu'est-ce qui fait que on peut se dire qu'on colle bien au personnage ou que on se met bien dans sa peau? Ça passe par des détails, ça passe par une manière de se tenir quand on est actrice. Par quoi ça passe?
Ça passe par le rythme, ça passe par le corps, ça passe par. Il y a quelque chose qui vous échappe forcément, mais qui vous échappe pour le meilleur. C'est le film qui vous raconte, c'est pas vous qui racontez le film. Et le film qui vous raconte, c'est le décor, c'est les autres, c'est on est défini par les autres aussi quand on fait un film. Ce qui est d'ailleurs très rassurant de le penser. Je suis même pas sûre que ça arrive à la conscience, mais enfin en même temps si de le sentir un petit peu, ça permet d'en faire plutôt moins que plus que trop. C'est toujours mieux. Parce qu'il faut faire confiance au film. Si vous enlevez le Japon, si vous enlevez Tsuyoshi Yara, mon partenaire, si vous enlevez Auguste Diehl, si vous enlevez tout ce qui...
Et Lee Girard aussi.
Et si vous enlevez, y a pas, c'est eux qui me font exister. C'est moi qui les fais exister aussi.
Mais ce qui est paradoxal aussi dans la manière dont on peut concevoir des films aujourd'hui, qui sont faits aussi avec de grands acteurs, de grandes actrices dont vous faites partie, Isabelle Huppert. Quand on veut avoir Isabelle Huppert comme actrice, c'est qu'on attend une certaine interprétation, un nom aussi qui va susciter de la confiance de la part du public. Donc ça, c'est aussi paradoxal de se dire, moins j'en fais, meilleur le film va être. Alors qu'en fait, c'est peut-être vous la clé du film.
Oui, mais c'est pas parce que je suis la clé du film que je dois me surpositionner ou me surdimensionner par rapport au film. Au contraire, plus je suis la clé du film et plus je dois entrer dans le film, faire partie du film et pas être. Sinon, je serais hors cadre. Et à ce moment-là, je sais, ça ne serait pas servir le film.
Mais ça vous est déjà arrivé d'ailleurs d'être hors cadre, de vous dire
non,
j'en fais trop?
Non, jamais. Non,
vous
non,
avez toujours non. joué juste finalement?
Je ne sais pas si j'ai toujours joué juste. Non, ça ne serait pas à moi de le dire de cette manière-là. Mais bien que je l'ai peut-être un petit peu dit déjà. Mais, juste par rapport au film. En tous les cas... exprimer ce que le film est censé exprimer.
Vous avez déjà été étonnée, parfois, en découvrant le film, de la manière dont vous aviez joué? De vous dire, c'est pas... j'en ai fait trop, j'en ai pas fait assez, ou ça, c'est pas la manière dont j'avais ressenti cette scène, et elle apparaît comme ça, à l'écran?
Ça, c'est une question assez compliquée, parce que peut-être on voit les films différemment selon qu'on les voit dès qu'on les a faits. Quand on les revoit beaucoup plus tard... on les revoit différemment. C'est très compliqué de vraiment d'avoir une analyse et une perception juste de ce qu'on ressent quand on. C'est compliqué aussi de voir un film parce que quand on le voit, c'est pas son film. C'est quand même. Il y a plusieurs films qui se font toujours. Il y a le film du metteur en scène. Il y a un film secret qu'on se raconte soi-même. Il y a la manière dont c'est monté. Le montage, c'est une étape. Crucial.
Qui change tout peut-être.
Qui peut tout changer, ouais. Qui peut absolument tout changer. À une seconde près, qui peut modifier ce qu'on a voulu dire. Donc c'est compliqué de voir un film quand il est fini.
Ben, je vous propose d'en écouter un extrait d'un film que vous avez fait.
Autant pour manger des glaces.
Oui.
Vous êtes en vacances?
Oui.
Vous n'allez pas à la plage?
Non.
Vous n'aimez pas? À cette heure-ci, c'est la fourmilière. La plage, il faut y aller tôt le matin, c'est complètement vide. C'est la première fois que vous venez à Cabourg?
Oui.
Moi, je passe mes vacances dans ce trou depuis ma putain d'enfance, hélas.
C'est joli pourtant.
Joli? Oui, c'est vrai. Cabourg, perle de la côte normande. Sa digue de 1800 mètres, son casino et ses jardins aux parterres admirables couverts de fleurs. Son avenue de la mer, son grand hôtel avec sa chambre de Marcel Proust, sa spécialité de caramel mou. son garden tennis club, son golf à 18 trous. Pour les moins fortunés, son golf miniature, son cercle hippique, son marchand de cycles, sa poste, sa promenade des Anglais, son boulevard des Belges. Et puis surtout son ennui monumental.
Je ne sais pas, Isabelle Huppert, si vous l'avez revue récemment, mais en tout cas, vous l'avez reconnue immédiatement. Tout La Dentelière de Claude Goretta en 1977.
C'est ce film qui vous a révélé, Isabelle Huppert. Vous y interprétiez le rôle de Pomme, une apprentie coiffeuse qui tombe amoureuse donc d'un jeune bourgeois qu'on a entendu, qui trouve quand même que Cabourg, ça ressemble à un trou. Pomme se retrouve donc confrontée à un autre milieu que le sien. Est-ce que vous l'avez revu d'ailleurs, ce film, récemment ?
Je l'ai revu pas très récemment, mais au cours des années, je l'ai revu.
Et vous en avez pensé quoi ?
J'ai pensé que ça restait très visible. On pense pas ça de tous les films. Non, mais c'est vrai, il y a des films qu'on
revoit plus ou moins facilement. Vous voulez dire pas
daté ? Pas tant que ça, non. Non, non, pas tellement. C'était un très beau livre de Pascal Lainé, qui avait eu le prix Goncourt. Et non, pas tellement daté. Non, non, je trouve que c'est un film qui voyage bien dans le temps.
Juste après, il y a eu Violette Nozière avec Claude Chabrol. Là, vous avez véritablement explosé, on peut le dire. Vous avez eu un prix d'interprétation.
Explosé en plein vol
Non, je crois pas, non, puisque nous sommes en 2024 et que j'ai vu la liste de vos films, et pas du tout. Et justement, en fait, quand vous considérez votre parcours, vous vous dites quoi, en fait ? Que vous avez eu de la chance, que vous êtes passé entre les mailles du filet, que vous n'avez pas eu de traversée du désert. Comment vous l'expliquez, ça, et qu'est-ce que vous vous dites ?
Eh bien, je me dis pas grand-chose, et je suis assez contente de pas m'en dire grand-chose. Parce que j'entends ce qu'on me dit, et j'en suis consciente aussi. Je me dis, finalement, j'ai tourné avec tous ces gens, j'ai fait des pièces avec tous ces metteurs en scène, et en même temps, j'en pense pas grand-chose, et c'est ça qui me permet d'en faire d'autres. C'est-à-dire
vous n'avez jamais été polluée par l'angoisse que ça s'arrête
Non, l'angoisse que ça s'arrête, non, mais non plus. Mais il y aurait une pollution plus embêtante que l'angoisse que ça s'arrête, c'est la conscience un peu envahissante et encombrante que tout ça a été fait. Ça serait une pollution, au fond, plus néfaste.
Mais de la prétention, vous voulez dire, ou de l'orgueil ?
Non, pas de la prétention, mais comme quelque chose qui pèse, comme une charge. Ça pourrait, mais c'est pas le cas du tout. Et il n'y a pas non plus d'ingratitude dans le fait que ça pèse pas, parce que ça pourrait être aussi ça, au fond, de me dire, ça n'a pas tellement d'importance. Donc, c'est pas non plus de la gratitude, c'est quand même de la reconnaissance de privilèges et de grandes chances que j'ai eues, mais sans lui laisser complètement le droit de m'encombrer, de m'envahir, de laisser de la légèreté.
Depuis,
je ne sais pas si je suis claire.
Si, si, on vous suit parfaitement.
D'accord.
Depuis les années 70, le monde du cinéma a complètement changé, notamment ces dernières années. Il y a eu MeToo, il y a des révélations qui sortent sur des réalisateurs, sur des acteurs avec lesquels vous avez travaillé. Est-ce que ça a changé votre manière de faire du cinéma ? Est-ce que vous avez découvert des choses ? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez et comment vous vous positionnez ?
Positionner, le mot est un petit peu lourd, je ne suis pas sûre que j'ai envie de me positionner, comme vous dites. Non, je ne pense pas que ça va... J'espère que ça ne va pas changer, moi, ma manière de faire des films. Et tout en même temps, des choses qui se disent de cette manière-là, on ne peut que... Mais pas que dans ce domaine, pas que dans le milieu du cinéma, partout... des paroles de femmes qui se font entendre, c'est toujours une bonne nouvelle. Ça n'a jamais été une mauvaise nouvelle. Moi, je suis pas sûre que ça va changer ma manière ni de faire ni d'être, parce que j'ai
ou
pas...
de choisir des projets ou des
non,
cinéastes.
Pas du tout. Non, non.
Vous avez interprété des rôles aussi qui, souvent, en fait, sont récurrents. Claude Chabrol disait d'ailleurs à propos de vous que vous étiez une finaude. Parce que vous créez votre propre œuvre à l'intérieur de l'œuvre des autres. Est-ce que il y a quelque chose de vous en fait qui se trace je disais tout à l'heure, quand on va voir un film avec vous, on a aussi envie de vous voir paradoxalement. C'est-à-dire qu'on a envie de voir comment vous jouez, on a envie de voir comment ça se passe. Est-ce que vous avez pris conscience au fur et à mesure des années qu'il y avait quelque chose de vous en fait qui apparaissait plus à l'écran parfois que de vos personnages en fait, que c'était vous aussi qu'on allait voir.
Oui, mais là, vous définissez exactement ce que c'est un acteur, ce qu'est un acteur. C'est-à-dire qu'il est à la fois lui, il est à la fois un autre. On ne saura jamais à quel point il est lui. On saura peut-être à quel point il est un autre, mais on ne saura jamais à quel point il est lui. Mais c'est quand même ça que les gens ressentent quand ils vont voir un acteur, sans exactement situer la frontière exacte entre la réalité et la fiction. Peut-être pas plus que l'acteur lui-même, hein, c'est plus du domaine de l'intuition, qu'on a vraiment de déposer quelque chose de soi à travers un rôle. Mais bien sûr que les gens qui vont voir des films... avec des acteurs qui connaissent ou qui reconnaissent ou qui connaissent depuis longtemps, ils s'attendent à le retrouver. Mais à les retrouver à chaque fois, j'espère, différemment. Sinon, ça serait bien ennuyeux, bien monotone quand même.
Oui, comme si en fait, c'était presque des membres d'une famille, en fait. C'est-à-dire de se dire, qu'est-ce qui devient
Des membres d'une famille, je ne crois pas, parce que j'espère que d'un film à l'autre, il n'y a pas de familiarité, au contraire, qu'il n'y a que de l'étrangeté, que du changement, que de la surprise. J'espère.
Vous voyez à côté des églises, des musées, des parlements, stades, c'est-à-dire l'héritage des Grecs anciens, on trouve ça partout dans l'Antiquité. Il y avait un endroit qui s'appelait un théâtre, qu'on n'arrive pas à définir exactement. Est-ce que c'est une thérapie ou est-ce que ça a à voir avec notre maladie ou notre faiblesse ou plutôt c'est une plateforme très concrète d'un discours rationnel et d'échanges rationnels. Donc, puisque c'est tellement complexe, et on ne peut pas donner en général une réponse à ce que c'est que le théâtre. Mmh. Mais puisque ça existe depuis quelques mille ans...
Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
La voix du metteur en scène Christophe Warlikowski dans l'émission « Par les temps qui courent » sur France Culture en mai 2022. Isabelle Huppert.
Vous l'avez reconnu, là. C'était comme une sorte de blind test pour vous de redécouvrir les voix de Warlikowski ou vous-même?
Je crois que je peux reconnaître toutes les voix de tous les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. J'ai reconnu la voix. Et c'est très beau ce qu'il dit. Et c'est drôle parce que quand je l'écoutais dire qu'au fond, il ne savait pas ce que c'était que le théâtre, je me souviens que c'est très précisément avec lui quand j'ai fait Tramway.
Un tramway nommé Désir.
Un tramway nommé Désir qui s'appelait le tramway. Pas un tramway de mes désirs, pour bien indiquer que c'était le tramway, mais légèrement modifié, ce qui nous a d'ailleurs valu pas mal d'avatars, à savoir qu'à un moment donné, on n'a plus eu le droit de faire le spectacle, car les ayants droit de Tennessee Williams ont finalement fini, alors qu'on avait quand même tourné le spectacle dans pas mal d'endroits, on l'a quand même amené jusqu'au festival d'Adélaïde, par exemple, en Australie, et puis après, on devait partir à New York avec, et puis dans d'autres pays, et là, ils ont décidé que c'était terminé, que les modifications que Christophe Warlikowski faisait subir à la pièce était pas recevable et donc on n'a plus eu le droit de jouer ce spectacle. Mais je me souviens bien que c'est en faisant ce spectacle que j'avais très précisément éprouvé que le théâtre c'est vraiment un monde qui se crée à partir de rien et c'est difficile justement de dire qu'on le connaît peut-être à cause de ça. Parce que c'est un monde comme une terre en friche, et c'est pas du tout quelque chose qu'on peut anticiper, qu'on peut prévoir. On pourrait pas, par exemple, à l'avance, dire qu'on va décider qu'un personnage se déplace d'un endroit ou à un autre. C'est un monde qui arrive avec tout ce que ça suppose de hasard, de surprise, et on ne sait pas ce que ça va être. Et je comprends très bien pourquoi il dit qu'au fond, il ne sait pas ce que c'est que le théâtre.
Mais il le compare, on a besoin de théâtre comme il y a dans la ville des parlements, des églises. Donc c'est un lieu essentiel, tout en ne sachant pas le définir. Il dit, si c'est un lieu d'échange rationnel ou presque quelque chose de l'ordre de la maladie ou ou presque, il dit de la pathologie, je crois, donc ou de la thérapie peut-être. Est-ce que ça soigne quelque chose ? Vous avez joué Bérénice sous la direction de Romeo Castellucci jusqu'au 28 mars, donc tout récemment. Vous allez repartir en tournée avec lui.
Et tout prochainement,
tout
demain.
Tout prochainement, oui, demain, en plus, à
on
Milan, c'est ça ?
Le spectacle à Milan, voilà.
Voilà. Et il s'est passé, le 19 mars dernier, quelque chose, à savoir un spectateur vous a invectivé alors que vous étiez en train de jouer. Vous vous en êtes rendu compte tout de suite, parce que vous avez continué à jouer.
Oui. Oui, oui. Non, mais on a dit beaucoup et pas tout à fait comme il fallait par rapport à cet événement. C'est d'ailleurs assez curieux. Ça a suffisamment questionné les gens pour qu'on a réagi. C'est-à-dire par qu'un soir, il y a eu plusieurs soirs où c'est arrivé. C'était ce soir-là le plus violent, puis c'était la première fois. Donc après, c'est un spectacle de Romeo Castellucci. Lui-même, il en a pas été étonné plus que ça. De toute façon, je crois qu'il était pas là quand c'est arrivé. Il était déjà reparti. Mais néanmoins, il a quand même été au courant. Il y a des spectacles de Romeo Castellucci qui ont suscité des réactions bien plus violentes que ça. Ça interrogeait plus, d'après ce que j'ai pu en écouter ou en lire, les gens que moi, finalement. Et puis ça les a pas toujours interrogés dans la précision, parce que ça m'a fait mesurer à quel point on peut dire n'importe quoi aussi sur un événement comme ça. Et surtout, ça m'a un peu... je me suis dit que les gens savaient pas vraiment regarder un spectacle, parce que du coup, dans le récit que j'ai... parfois que j'ai pu en lire, les scènes étaient interverties, enfin, c'était très curieux. Et bon, ça, c'est presque anecdotique, mais quand même, c'est assez intéressant sur la manière dont les gens croient voir un spectacle. C'est très, très curieux. Voilà, donc c'est arrivé... Oui, c'était.
Mais c'est assez. Moi, j'ai trouvé plutôt que c'était une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça fait réagir. C'est-à-dire qu'il y a quelque
chose qui se passe.
Bonne nouvelle,
j'irais peut-être pas jusque-là quand même. Ça, je l'ai.
J'imagine que c'était pas agréable à vivre.
Non, parce que après, oui, on peut toujours convoquer du temps de Racine justement, ou de Shakespeare, ou
de Molière.
De Molière, où les gens effectivement invectivaient les acteurs quand ils jouaient. Certes, je suis pas sûre qu'on a envie que ça se reproduise, que ça devienne une habitude et qu'elle soit bien de le célébrer de cette manière-là, en le remettant dans une perspective historique. Les temps ont changé quand même.
Merci beaucoup Isabelle Huppert. On pourra vous voir demain sur les écrans dans le film d'Élise Girard, Sidonie au Japon. On pourra donc aussi vous voir sur scène interpréter Bérénice sous la direction de Romeo Castellucci dès demain, c'est ça, à Milan.
Dès jeudi à Milan.
Dès jeudi, dès le 4 voilà. À Milan. Vous partez donc demain, fin septembre. On pourra aussi vous retrouver en tournée à Lugano, en octobre à Genève. On mettra toutes les dates sur notre site à la page des Midi de Culture.
On termine toujours en musique avec deux chansons que nous avons choisies, soit l'une sur Bérénice, soit l'autre sur Sidonie. Laquelle souhaitez-vous écouter ?
Ah, c'est pas facile. Allez, je vais dire Sidonie.
Sidonie a plus d'un amant. C'est une chose bien connue qu'elle avoue, elle fièrement. Sidonie a plus d'un amant parce que pour elle être nue est son plus charmant vêtement. C'est une chose bien connue. Sidonie a plus d'un amant. Elle en prend à ses cheveux blonds comme à sa toile l'araignée.
Je vais dévoiler le mystère, Isabelle Huppert.
Brigitte Bardot ?
Oui, bravo,
Brigitte. C'est imbattable.
Sidonie.
C'est fou, ça. Oui, j'ai quand même Sidonie. Sur le nid de Sidonie,
on reconnaît Brigitte Bardot. Merci beaucoup encore, Isabelle Huppert. Un grand merci aussi à l'équipe des Midi de Culture qui sont préparées tous les jours par Issa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delasselle. Réalisation Daphné Leblond, prise de son Nicolas Delmas. Vous pouvez réécouter cette émission en allant sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain.
À demain Géraldine.